Bonjour Emmanuel Davier.
Bonjour Jacques Monin.
Alors vous êtes, on le rappelle, la médiatrice de Radio France. On vous reçoit à intervalles réguliers pour que nous puissions répondre aux questions que se posent nos auditeurs sur nos enquêtes. Alors ben allons-y, sur quoi voulez-vous nous interroger aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, on revient sur votre enquête sur les vrais chiffres du financement de la campagne d'Emmanuel Macron. Vous avez retracé l'histoire de cette levée de fonds sans précédent et des auditeurs s'étonnent. Pourquoi avoir attendu 2 ans pour traiter ce sujet, nous demande Olivier, et plus globalement, pourquoi avoir fait ce sujet sur cette levée de fonds hors norme?
Alors, il faut répondre à la première question pour pouvoir répondre en fait à la deuxième. Pourquoi a-t-on attendu 2 ans? Alors, le mieux, c'est de le demander à Sylvain Tronchet qui avait réalisé cette enquête. Sylvain, pourquoi avoir attendu aussi longtemps?
Parce que c'est très long, en fait, de récupérer les documents et c'est très français comme problème. Emmanuel Macron est élu en mai 2017. On a eu accès à ses comptes de campagne qu'en avril 2018, c'est-à-dire presque un an après, et encore, quand on a eu ces comptes de campagne, on n'avait pas les fichiers détaillés de dons, on n'avait pas non plus les comptes du parti, on n'avait pas non plus les fichiers de dons faits au parti, et on n'avait pas non plus les fichiers des autres candidats, et éventuellement, on aurait bien aimé en avoir sur des élections précédentes. Bref, ça prend énormément de temps, en fait, pour agréger toutes ces données. Ces documents qui sont publics, au fond, qui disent énormément de choses du fonctionnement de la démocratie, eh bien, en France, et c'est un problème français, ils sont extrêmement longs, extrêmement fastidieux à avoir. Il faut savoir que si on était en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Allemagne, je ne parle même pas des démocraties nordiques, on aurait en temps réel quasiment tous ces chiffres. C'est-à-dire que pendant le déroulement de la campagne, on pourrait déjà commencer à parler de ces choses-là. En France, il faut attendre 2 ans. Alors après, on a 2 choix. C'est où on se dit c'est beaucoup trop tard et auquel cas on ne le traite pas. Ou alors on se dit c'est un sujet majeur qui dit des choses du fonctionnement de la démocratie et on décide de le faire quand même.
Et quand je disais, j'ajoute Emmanuel, parce que la deuxième question j'y arrive, quand je disais qu'il faut répondre à la première, c'est que si ce qu'on avait trouvé avait correspondu tout à fait au discours qui était véhiculé pendant la campagne, je pense qu'on n'aurait pas fait de sujet, on n'aurait pas fait d'enquête. L'investigation, c'est aussi, on dit, déjouer les stratégies de communication. En l'occurrence, ce qu'on a trouvé ne correspondait pas à ce qui nous avait été dit. C'est-à-dire que si on se souvient, on nous racontait que la campagne d'Emmanuel Macron, la campagne de levée de fonds, faisait l'objet d'un engouement populaire et il y avait une multitude de petits dons qui venaient alimenter les comptes de campagne. En fait, on se rend compte, quand on regarde dans le détail, que ce n'est pas tout à fait ça. Toute la première partie de la campagne fonctionne sur des gros dons. Et on en a fait la démonstration, les gros dons sont ciblés quasi exclusivement au démarrage pour pouvoir amorcer cette campagne. Les 100 000 petits dons qui arrivent, ils arrivent ensuite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on nous a expliqué aussi que les dons étaient plafonnés, donc que les dons étaient forcément limités à 7 500 euros. Ben là aussi, quand on regarde dans le détail le travail qu'a fait Sylvain, on se rend compte que on peut donner en 2016, mais on peut donner en 2017. On peut donner à la campagne, mais on peut donner également au candidat. On peut donner dans un couple, l'un et l'autre. Et finalement, on a identifié, et ils sont plusieurs, des donateurs qui ont donné jusqu'à 40 000 euros. Donc, il nous semblait intéressant aussi de montrer quelle était la réalité des faits à l'aune de ce qui nous avait été expliqué au moment de la campagne, même si on doit pour ça attendre 2 ans.
Autre reproche, le calendrier choisi pour la diffusion, cela surprend Martine. Elle nous écrit « Votre enquête, elle sort 3 semaines avant les européennes. Ben voyons, le hasard, bien sûr, c'est pitoyable. » Alors que répondez-vous à cette auditrice, Jacques Monin ?
Vous êtes méchante, Martine. Pitoyable, non, ce n'est pas des mots qu'il faut employer. Un peu de bienveillance. Non, c'est simplement que l'anniversaire des 2 ans d'Emmanuel Macron, l'anniversaire par nature, c'est aussi une date où on revisite les événements. Donc là, c'était le moment où on disposait enfin d'éléments. Et là, on l'a expliqué, donc je ne vais pas revenir dessus. Et en même temps, au moment où effectivement, on fait le bilan quelque part des 2 ans d'Emmanuel Macron, ça nous semblait être le meilleur moment pour le faire.
Je vais faire juste une petite remarque. Si on l'avait sorti quelques semaines avant, par exemple, on aurait été au plus fort de la crise des Gilets jaunes, on aurait pu considérer aussi que c'était une mauvaise période pour l'exécutif. Il n'y a jamais de très bonne période pour sortir ce genre d'enquête pour ceux qu'elle concerne directement.
Tout autre sujet à présent, Doctolib, success story ou danger pour le monde de la santé. Plusieurs auditeurs ne comprennent pas que vous critiquiez cette réussite alors qu'ils estiment au contraire que c'est une initiative qui mérite d'être saluée. Quel éclairage pouvez-vous leur apporter pour expliquer ce choix, Jacques Monin ?
Alors, on a insisté sur le côté réussite de Doctolib. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et toute la première partie de l'enquête, d'ailleurs, était consacrée à ça. Évidemment, Doctolib, c'est une formidable réussite française d'une start-up qui arrive à se hisser au rang d'un petit GAFA, quelque part, à la française. Mais comme tout GAFA, il pose des questions. Et des questions qui concernent des enjeux de société. Donc, à ce titre-là, il mérite d'être interpellé aussi. On constate que Doctolib, aujourd'hui, est en train de se positionner dans une situation qui est dominante. Qu'est-ce qui nous dit que dans quelques années, Doctolib n'aura pas la mainmise quelque part sur les médecins, c'est-à-dire le secteur privé, mais aussi sur une partie des hôpitaux, de la gestion du calendrier des hôpitaux, y compris de certaines données médicales des hôpitaux. On voit très bien comment fonctionnent les GAFA. Enfin, pendant de nombreuses années, les GAFA effectivement fonctionnent sur un mode soit de gratuité, soit même parfois sans dette, creusent des déficits pour ensuite devenir dominants. Et on se rend compte que ces GAFA... Eh bien, se permettent de faire la pluie et le beau temps sur le marché. Donc, évidemment, on ne fait aucun procès à Doctolib, mais on dit simplement le procès, ce n'est pas Doctolib, c'est sa situation dans l'ensemble d'un paysage, d'un acteur privé en position de pouvoir contrôler finalement des acteurs publics demain. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est celle des données. Doctolib possède un certain nombre de données. Il en aura probablement de plus en plus. Ces données-là sont couvertes, c'est vrai, en France, par un règlement européen qui est assez... protecteur, enfin on sait très bien ce que vaut la protection des données en France. Ce règlement qui s'appelle donc le RGPD aujourd'hui est effectivement une forme de bouclier. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si demain Doctolib était racheté par des Américains par exemple ? Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Cloud Act qui s'oppose en fait au RGPD, c'est-à-dire que le Cloud Act permet à l'État américain d'imposer aux entreprises qu'elles divulguent les données qu'elles détiennent, y compris dans des serveurs à l'étranger. Donc évidemment, le patron, qui est un homme brillant de Doctolib aujourd'hui, dit « jamais je ne vendrai ma société ». Mais qui peut dire de quoi demain sera fait ? Et si on n'alerte pas et si on ne pose pas les questions, bah demain, au contraire, on nous le reprocherait.
Alors toujours à propos de Doctolib, on termine avec une remarque de Sylvie. J'écoute très régulièrement Secret d'Info et je trouve généralement cette émission vraiment intéressante. Par ailleurs, au-delà du compliment, il me semble essentiel de ne pas laisser affirmer de choses fausses. J'utilise Doctolib depuis des années et jamais on ne m'a demandé d'évaluer le praticien consulté. Merci de regarder sur quelle base cette affirmation a été dite ? Votre réponse à Sylvie, Jacques Monin ?
Alors Sylvie a raison et nous avons également raison. C'est-à-dire que, en fait, c'est optionnel. Doctolib propose d'évaluer les médecins peuvent refuser. Mais il y a des évaluations de médecins qui sont faites par les patients. Ces évaluations ne sont communiquées qu'aux médecins, donc elles sont confidentielles. Donc certains vont chez des médecins qui ont refusé l'évaluation, donc ça n'apparaît pas sur le site. Certains vont chez des médecins qui ont accepté l'évaluation, donc ils l'évalueront. Mais en tout cas, si vous, demain, vous allez sur Doctolib pour prendre rendez-vous avec un médecin, vous ne verrez effectivement aucune case qui dira si ce médecin a été apprécié ou pas. C'est un outil qu'on fournit aux médecins pour pouvoir savoir s'il est lui-même apprécié par ses propres patients. On en reste là, pas d'autres
questions aujourd'hui.
Pas d'autres critiques. Alors je précise qu'on peut vous écrire à mediatrice@radiofrance.com, mais surtout restez avec nous dans quelques instants. On va parler d'une guerre fratricide qui se déroule à Lyon.